Et on commence ce journal avec ce dont vous parlons depuis quelques jours maintenant, cette mission, cette fameuse mission Osiris-Rex, puisque cette nuit, la sonde a réussi à vraisemblablement prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu.
Rex has descended below the 5-meter mark. The hazard map is go for tag. Contact expected in 50 seconds.
We're going in.
Touchdown declared.
Bon, on entend la joie des équipes de la NASA qui travaillent sur cette mission depuis 16 ans. À plus de 321 millions de kilomètres de la Terre, la sonde hier s'est approchée de l'astéroïde et a fait une manœuvre de touch and go. C'est-à-dire qu'elle a étendu son bras robotisé de 3 mètres, le TACSAM, et a soufflé de l'azote sous forme gazeuse pour recueillir de la poussière de Bennu. L'objectif est d'en collecter au moins 60 grammes pour les faire revenir sur Terre d'ici 2023. Alors, pour l'étude des astéroïdes, cette mission est cruciale. Ces échantillons vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire du système solaire, mais aussi de mieux anticiper les risques de collision avec des astéroïdes géocroiseurs. Alors, sans vouloir être trouble-fête, l'opération s'est déroulée correctement, mais on ne connaît pas encore la quantité de matière qui a été prélevée et stockée. Léa Gritton est docteur en astrophysique à l'IRAP de Toulouse et membre du comité de rédaction de la revue Astronomie.
On peut prélever entre 60 grammes et 2 kilos de matière. Donc 60 grammes, c'est le minimum. Pour mesurer la masse qui a été prélevée, la NASA va procéder en 3 étapes. La première, c'est de regarder des images de la surface de l'astéroïde avant et après l'opération, pour voir si l'opération a effectivement pu modifier la surface de l'astéroïde. Ensuite, elle va effectuer des images de la partie qui contient la matière prélevée pour essayer de voir s'il y a de la poussière dessus et donc si l'objet a bien touché la surface de l'astéroïde. Et ensuite, la dernière façon de mesurer la masse, c'est en mesurant l'inertie. En fait, donc comme l'objet qui contient les échantillons est situé au bout d'un bras, en fait, on va pouvoir tourner ce bras autour d'un axe, et ensuite ça permet avec des calculs de savoir la masse qui est contenue au bout du bras. C'est un peu l'idée de si vous tenez un objet un peu lourd au bout d'une ficelle, par exemple, et que vous allez tourner l'objet autour de vous, le fait que ça tourne, vous avez une idée instinctivement de la masse qui est au bout. Voilà, donc c'est comme ces 3 méthodes qui vont permettre de savoir la masse exacte qui a été prélevée.
Le 30 octobre, on saura si la NASA a bien prélevé 60 grammes de roche. Et si ce n'est pas le cas, la sonde Osiris-Rex devra effectuer un nouveau prélèvement en janvier. Puis elle commencera son voyage vers la Terre à partir de mars 2021.
On passe au bref. L'endométriose va être enfin, pourrait-on dire, enseignée en école de médecine.
Et cette maladie gynécologique très douloureuse, parfois handicapante, reste la première cause d'infertilité et elle touche une femme sur 10. Elle est souvent diagnostiquée tardivement parce qu'elle est mal connue du grand public et surtout des docteurs. L'endométriose est donc enfin intégrée dans la formation des jeunes médecins. Dès cette année, elle entre dans les programmes des étudiants en médecine de second cycle. Pourtant découverte en 1860, cette maladie chronique commence enfin à être prise en considération.
Selon une prépublication sur le site Archive, peut-être qu'il n'y a finalement aucune trace de phosphine dans l'atmosphère de Vénus.
Et en septembre, l'annonce de la détection de ce gaz a provoqué l'enthousiasme de toute la communauté scientifique. Cela pourrait être, entre autres, un biomarqueur, un signe de vie. Une équipe américaine a examiné les données collectées en 2015 aux observatoires de Mauna Kea à Hawaï. Les observations qu'ils ont examinées ont été prises dans des longueurs d'onde infrarouges. Ils n'ont trouvé aucune trace de phosphine. Alors peut-être qu'il faut sonder plus profondément l'atmosphère de la planète. Ces lectures infrarouges n'ont été prises qu'au sommet des nuages de Vénus. Peut-être aussi que l'abondance de phosphine varie au fil du temps. Ce que semblent dire ces informations contradictoires, c'est qu'il faudra de très nombreuses observations de Vénus ou peut-être envoyer une sonde pour prendre des mesures de plus près.
Et enfin, selon des astronomes de Harvard, 3% des satellites de la constellation Starlink sont déjà en panne.
Et pour sa méga constellation Starlink, Elon Musk a déjà envoyé plus de 700 satellites. Selon les astronomes qui ont récolté les données de mouvement des satellites, 3% sont déjà tombés en panne. Alors en soi, 3% ce n'est pas un taux d'échec terrible, mais le problème c'est que la firme prévoit d'envoyer 42 000 satellites. Et avec ce taux, pour l'ensemble de la flotte de SpaceX, cela pourrait entraîner des milliers de déchets spatiaux supplémentaires. Entre la constellation de OneWeb, qui prévoit 48 000 satellites, et celle prévue par Amazon pour sa flotte Kuiper, de plus de 3200 engins, le problème de la pollution spatiale risque de devenir extrême et de provoquer une chaîne de collisions incontrôlable.